Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Bruit de couloir sur PFM, une émission proposée par les détenus de la prison de Bapaume. Alors on est ensemble pendant une demi-heure à peu près. Moi je m'appelle Fred, c'est moi qui vais présenter l'émission et je suis accompagné de Aurélie, Marie, Cynthia, Alain, Gégé et Jean. Donc on va avoir plusieurs chroniques et on va commencer par une table ronde qu'on a fait entre nous sur le quotidien de la prison, voir un peu comment ça se passe. Parce que des fois, les gens ont une idée de la prison qui est un peu paradisiaque et on va voir que c'est pas le cas. Donc, c'est parti pour cette première chronique.
Du coup, la première question, c'est avant l'arrivée en détention, la question de votre rapport à la justice concernant votre affaire et votre rapport aux avocats et au jugement. Est-ce qu'il y en a qui veulent un petit peu témoigner, raconter ce rapport avec les avocats et les juges?
Ce que je retiens du jugement, c'est que ça n'a rien à voir avec la télévision. L'avocat, il se bat pas pour vous. Le mien est arrivé, il ne connaissait même pas mon affaire, il ne connaissait même pas mon dossier. Pour lui, je devais prendre maximum 20 ans et j'arrive le premier jour au tribunal et on me dit non mais en fait par rapport à vos faits c'est 30 ans. Donc déjà première voilà, il n'a pas su me défendre, je savais pas à quel moment j'avais le droit de parler, donc j'ai pas réussi à dire aux familles que j'étais désolée, j'ai pas réussi à m'excuser parce que je savais pas à quel moment je devais le dire. J'étais pas préparée, il est jamais venu me voir d'ailleurs, voilà. Pour vous dire, quand j'ai pris 15 ans, à la fin, il m'a dit « mais je ne vous demande pas d'argent, on va faire appel tout de suite ». Parce qu'il a vu qu'il avait complètement… Donc, un jugement est très dur pour la famille de la victime aussi. Et je ne souhaite à personne de le vivre, mais ça n'a rien à voir avec la télé. Je vous le dis tout de suite, c'est vrai qu'on est tout seul face à je ne sais pas combien de personnes ils sont, avec les jurés, le juge, le greffe, le procureur. Vous vous sentez vraiment tout seul. La famille, ma famille par exemple, qui sont venus témoigner pour moi, ils ont été chercher leur dossier à eux, ils les ont descendus, ils les ont… Limite, c'était eux aussi qu'ils étaient coupables, alors que non. Ils n'avaient rien fait, ils venaient juste témoigner pour moi.
Le rapport, par exemple, aux tribunaux, etc., c'est très compliqué parce qu'en vérité, c'est des jurés, donc c'est des personnes lambda qui nous jugent. Et par exemple, pour ma part, il y avait des personnes qui s'endormaient parce que ça durait très tard. Et en fait, c'est assez perturbant de voir ça sur nous, de notre bande accusée, parce qu'on se dit, ils ont notre vie entre leurs mains. Et au lieu d'écouter vraiment tout ce qui se dit, que ce soit donc l'avocat de la défense, l'avocat des parties civiles, en fait, ils n'écoutent pas réellement parce que je pense qu'ils ne mesurent pas l'importance de chaque parole. Et c'est vrai que pour ma part, ça a été une expérience très traumatisante parce qu'on nous descend constamment. Et même quand on essaye de se justifier, comme disait Aurélie, on ne nous accorde pas vraiment la parole ou aussi on perd nos mots parce que c'est quelque chose de très difficile. C'est... Alors évidemment, pour la famille des parties civiles, etc., tout est difficile pour notre famille aussi. Et en fait, on doit juste encaisser et on se dit, bon, bah, à la fin, de toute façon, c'est eux qui nous jugent. Et donc, moi, pour ma part, je sais que dès le deuxième jour, j'avais un petit peu abandonné, quitté tout ce qui se passait autour de moi parce que je me disais, de toute façon, quoi que je dise, c'est déjà acté. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'après, on se dit, bon... Tout est décortiqué de A à Z et on voit toute notre vie exposée. Donc bon, pour ma part, c'est un peu différent. C'était chez les mineurs, donc j'étais déjà en tant que mineure. Mais c'est quand même pas facile, c'est parce qu'on a l'impression de pas vraiment être écouté. Et c'est la parole de nous contre celui en face de nous aussi. Et c'est vrai qu'on est un petit peu acculé, puis on encaisse. Et puis après, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Moi, j'avais qu'une seule hâte, c'est d'avoir la peine prononcée, peu importe laquelle. Et c'est vrai qu'il y a un manque de communication parce que, par exemple, moi, pour mon chèque d'inculpation, je l'ai su que le jour J, donc que le premier jour du procès, alors que donc, tout le temps de l'instruction, ça n'a fait que changer le chèque d'inculpation, donc je n'ai pas suivi. Mais ça a été quand même un choc parce qu'on se dit on n'est pas au courant de tout quand on arrive, alors que c'est notre dossier, c'est notre affaire. Et on se dit, bon, bah, maintenant, on n'a plus qu'à s'asseoir et à écouter tout ce qu'on va raconter sur nous. Et voilà, ce n'est pas facile. Mais évidemment... C'est facile pour personne, que ce soit pour les familles des victimes, nos familles Et après, on encaisse parce que c'est nous qui avons fait une bêtise et puis c'est tout.
En fait, le jour que je suis passée devant le tribunal, déjà, mon avocate a été commis d'office. Et je suis passée, au lieu de passer à 13h30, je suis passée vers 21h. Donc c'était plus compliqué pour moi. Et en plus, j'étais enceinte de 5 mois et demi. Alors c'était beaucoup plus dur. Et ils disaient qu'ils avaient des preuves, et en fait, ils n'en avaient pas. L'avocate, elle avait demandé 6 mois de prison avec sursis. Et j'ai demandé, puis j'ai eu 3 ans ferme. Ben là, le mois prochain, je serai libérable. Ben là, normalement, si tout se passe bien.
Je voulais dire aussi une chose, c'est qu'il faut savoir qu'on dit que c'est les jurés qui prennent la décision, mais il y a le juge qui est avec eux, et le juge les aide beaucoup à prendre la décision. Voilà. Moi, par exemple, l'avocate générale avait demandé 15 ans. On m'a fait redescendre dans la geôle, et au bout de même pas 15 minutes, je suis remontée, on m'a dit 15 ans. Voilà. Donc ça a pris 15 minutes. Je ne pense pas que les jurés, en 15 minutes, ils ont pris la décision. Je pense qu'on les a bien aidés. Voilà. Ils ne sont pas tout seuls après la décision. Parce que de toute façon, il y a une sorte de barème à respecter au niveau des années de prison par rapport à l'acte qu'on a commis.
Moi, je pense qu'en fait... C'est la justice des hommes. C'est une décision qui est prise par des êtres humains. Et ce n'est pas forcément le reflet de la réalité et de la vérité. Ça restera toujours. Ça a toujours été, ça restera toujours. Ça, j'en suis persuadé.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre premier jour en détention ?
Alors moi, je suis arrivé en prison, il était 3h du matin. Donc j'étais au tribunal de Bobigny et dans les geôles en bas. Je suis arrivé à 3h du matin, on m'a mis dans une cellule. On m'a donné tout le package qu'il fallait. On vous donne une couverture, on vous donne un repas, tout ça. Et en fait, j'étais tellement fatigué que je ne me suis pas rendu compte en fait, que j'étais en prison. En fait. Je venais de passer 2-3 jours en garde à vue. À être interrogé par le juge, par la PJ. Je suis arrivé, j'ai pris une douche, je me suis endormi. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le bruit, parce que les maisons d'arrêt, c'est pas comme ici. Il y a du bruit tout le temps, même le soir, même à 3h du matin. Et en fait, j'ai pris une douche, je me suis endormi. Et c'est le lendemain matin que je me suis réveillé. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas chez moi, en fait. Et que c'était pas un cauchemar, un mauvais rêve que j'avais fait, et que là ma vie en fait elle avait basculé, et là c'était vraiment le choc. C'est juste le lendemain que j'ai vu le chef des arrivants, qu'on discute tout ça, mais quand je suis arrivé je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment quand tu te rends compte vraiment où tu es que là tu te dis ouais, ma vie elle sera pas forcément comme avant.
Moi, mon premier jour en prison, c'était à Beauvais. En fait, moi, comme j'étais jugé à 21h, je suis arrivé à minuit en prison. En fait, je n'ai pas trop calculé. J'ai pris ma douche qui était 1h15. Après, j'ai regardé un peu la télévision, bêtement. Mais j'étais couché, c'était 2h30 du matin, et en fait, ils m'ont réveillé à 7h du matin. J'avais la tête dans... Comment on peut dire ça, poliment. Dans le coltard. En fait, le lendemain, j'avais rendez-vous à la chef à 8h30, 9h. Quoi. Moi, j'étais pas bien, surtout que j'étais enceinte de 5 mois et demi. Donc, j'étais vraiment pas bien, quoi. Puis je réalisais pas que j'étais en prison, quoi. Puis d'être enfermée, j'étais pas bien, quoi. Surtout que je suis claustro. J'aime pas être enfermée dans une pièce.
Moi, c'était un petit peu différent. Pour le coup, j'ai vraiment, je pense, tout de suite capté ce qui m'arrivait, parce que je suis pas rentrée avec mes parents. Et moi, je sais que j'étais en panique totale parce que je me posais des questions sur tout. La première chose que j'ai demandé du coup, aux surveillantes quand je suis arrivée, c'était est-ce que je dois garder mes vêtements, parce que je pensais que ce serait comme à la télé où il fallait un uniforme. J'étais vraiment en panique, je faisais que pleurer. Et pour le coup, après peut-être que c'est chez les mineurs, j'en sais rien, on m'a beaucoup rassurée tout de suite alors que je suis arrivée très tard, il était 1h30 du matin. Mais elles ont pris le temps, les surveillantes, de me parler, de me rassurer, de m'expliquer un petit peu comment ça se passait, alors que bon, c'était pas obligé. Et je sais que ça a été quand même un moment très marquant pour moi, parce que je m'en souviens encore. Et où vraiment, je me suis dit, ce sera comme les prisons américaines, ce que je connaissais pas du tout, hein, l'univers carcéral. Et tout de suite, j'ai compris vraiment ce qui m'arrivait. Après, c'est vrai que le lendemain, pour le coup, ça, j'étais un peu plus calmée parce que j'ai vu justement là, les chefs, on a le parcours habituel des arrivants. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis là, donc il faut faire avec. Il n'y a pas le choix. Et j'ai un peu plus pris sur moi pour encaisser. De toute façon, en détention, le plus difficile, c'est vraiment le manque de sa famille, enfin, en tout cas pour moi. Et donc, voilà, après, il n'y a pas le choix.
Donc moi c'était après ma garde à vue, donc ça faisait 24 heures que j'étais en garde à vue, et on me dit détention, donc là on m'emmène à Fleury-Mérogis, j'arrive, il devait être à peu près 6 heures du matin, les surveillantes m'accueillent plus ou moins agréablement, on me dit d'aller prendre une douche, parce que bien sûr, après 24 heures de garde à vue, il était temps, donc on prend la douche, on nous dit qu'il y a des vêtements qu'on ne peut pas garder, moi j'avais un pull bleu par exemple, ils m'ont dit ah non c'est pas possible, donc ils ont été gentils, ils m'ont donné d'autres vêtements, des tenues de jogging, après on m'a mis dans une cellule et puis on m'a laissé là, hein, parce qu'il était 6h30, donc c'est changement d'équipe, on ne vous dit rien. Heureusement, on m'a donné le paquetage, mais je ne savais même pas quoi en faire. Je ne savais pas si je devais m'installer dans la cellule, si je ne voilà, savais pas. Moi, c'est ma première fois, donc je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire. Et après, vous attendez. Moi, en tout cas, comme c'était le matin, j'attendais. Je ne savais pas à quel moment on allait venir me chercher. Après, oui, on voit tous les professionnels, hein, la direction et tout ça. Mais la vérité, je ne savais pas quoi leur poser comme question. Je ne savais pas quoi dire. Je viens d'arriver, on me dit « Vous avez des questions ?» Bah non. Et puis, le plus dur, c'est aussi... est-ce qu'on peut prévenir la famille? Est-ce qu'ils vont savoir si nous, dans quelle prison on est? Comment ils peuvent savoir? Voilà, est-ce qu'ils peuvent venir nous voir et tout ça? On nous dit pas grand-chose là-dessus et nous, on n'a pas vraiment les questions quand on arrive parce que, bah moi, en tout cas, j'étais dans un état, voilà, déplorable. J'ai fait quand même quelque chose de très grave, donc j'étais vraiment, voilà, je m'en veux beaucoup encore d'ailleurs, mais voilà, j'étais pas dans un état pour voir tous les chefs et leur dire ce que j'avais à leur dire. Et une fois que vous avez les questions, il n'y a plus personne parce que les surveillantes elles ont beaucoup de travail, elles n'ont pas le temps. Et après, vous apprenez au fur et à mesure le rythme de la prison. Voilà.
Alors on est tous ensemble. Tu rentres dans ta cellule, on est à trois en cellule déjà. Alors ça dépend à qui tu tombes. Tu peux tomber bien comme tu peux tomber comme un connard, quoi. Puis ça fait la bagarre, et puis il n'y a rien qui finit, quoi. Alors tu vas voir la directrice, tu vas voir tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes là? Et ceci et cela. On vous embarque l'autre côté dans une cellule, dans une autre cellule. On est à deux. C'est le brin, quoi. C'est franchement catastrophique, quoi. On ne s'occupe pas de vous, hein. On vous laisse là, puis terminé. Hein. Et j'étais voir la psychologue une semaine après. Une semaine après, j'étais voir la psychologue. Après, j'ai fait la connaissance de la SPIP, tout ça, pour expliquer tout ça. J'ai mis un mois avant de manger, parce que j'arrivais pas à manger. Dans ma tête, je pensais toujours à ma femme. Bon, voilà, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, parce que, bon, impossible d'avoir de nouvelles. C'était critique, quoi, c'était... Dans un sens, j'étais content d'être condamné, parce qu'au moins, je savais combien... Parce que vous savez, comme tout le monde, je crois qu'on compte les RPS qu'on va avoir, donc on dit, bon, tellement...
C'est une RPS ?
Réduction de peine, pardon. C'est une réduction de peine. Donc on calcule tout ça, quand est-ce qu'on va sortir à peu près. Donc voilà, puis vous êtes condamné, vous savez au moins à quoi vous attendre. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est comme ça. Puis de toute façon, la prison, ce qui est plus terrible, c'est parce qu'on s'y habitue. Ça, c'est un truc, c'est très dur. Enfin, moi, je m'habitue. Il y en a qui ne s'habituent pas, mais moi, au bout d'un moment, tu t'habitues. Il faut dire ce qui est, on s'y habitue. Heureusement d'ailleurs, parce que souvent, tu pleures tous les jours, alors. Hein.
Pour quelqu'un qui n'a jamais été incarcéré, en plus qu'à un certain âge, voire un âge très certain, c'est voyage au bout de l'enfer. Hein. L'arrivée, c'est terrible. En plus, on n'est pas tout de suite en maison de détention. On est d'abord en maison d'arrêt. La maison d'arrêt à la maison de détention, C'est le jour et la nuit. Hein. Alors, pour imager un peu ce que je dis, bon, bah, une maison d'arrêt, surtout quand on arrive le soir, c'est bruyant, même dans les films, dans les séries qu'on voit à la télé, c'est au-dessus, hein, c'est un niveau au-dessus encore. Ça fout la trouille. Franchement, ça... En fait, la première soirée, j'ai été complètement désespéré. Je me suis dit, c'est pas possible. Bon, puis ensuite, les jours suivants, je vais pas dire que je m'y suis habitué, mais bon, disons que ça a changé. Mais l'arrivée, c'est toujours terrible, non ? Ça, c'est certain.
Alors, ça nous amène justement au quotidien, en quotidien aux prisons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette gestion du quotidien et notamment du rapport à l'inactivité ? C'est-à-dire que voilà, il faut vous-même occuper vos journées, organiser vos journées.
Bon, déjà, on va faire une journée typique. C'est lever à 7h du matin. D'abord, il y a le surveillant qui passe à 5h30 à la ronde, c'est-à-dire qu'il regarde dans le hutton, voir si vous êtes toujours vivant, sûrement. Donc, 7h, c'est le lever. 11h30, c'est le repas. Il y a la fermeture des portes qui est à 12h15. À 13h15, c'est la réouverture. À 17h15, c'est la fermeture. C'est le repas. Et à 18h30, c'est la fermeture. Entre-temps, il y a les promenades. Qui ont lieu le matin à 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h. Et l'après-midi, c'est de 14h à 15h et de 16h à 17h30. Et donc, la journée en prison, si tu ne t'occupes pas de toi-même, si tu n'as pas d'activité toi-même, si tu n'as pas une autogestion de tes activités, tu es très vite envahi par l'ennui. Parce que franchement, il n'y a rien à faire. On a un peu de chance parce qu'on a un CD, on est en porte ouverte. On peut aller voir des connaissances, boire un café, jouer aux cartes, parler, tout ça. Mais pour ceux qui sont en maison d'arrêt, qui sont en porte fermée, c'est franchement la misère. Et si on n'a pas d'activité, intellectuellement déjà, c'est très dur. Faut s'occuper, faut trouver des occupations, faut lire, faut s'inscrire partout, faut aller en promenade, faut faire du sport. Sinon, t'as des tensions, tu vas mourir moralement en fait. Pas physiquement, mais intellectuellement, moralement, psychologiquement, tu peux y lisser beaucoup. Donc il faut que tu trouves des trucs à faire. Faut pas se laisser aller. Faut te bouger. Moi au début, quand je suis arrivé en prison, je faisais rien du tout. C'est le choc en fait. Le choc, il est arrivé assez tard en fait. Et je faisais rien. Et carrément, j'étais tombé en déprime. J'allais à Luxa le matin, je prenais des cachetons. Et mon premier parloir, ma famille m'a vu comme ça. Elle m'a dit, tu vas arrêter de prendre ces merdes et tu vas te bouger. C'est ce que j'ai fait. Et depuis, ma détention se passe mieux. Parce que j'ai trouvé des occupations. Parce que je me laisse pas aller, en fait. Et c'est ça le secret. Si tu te laisses aller, t'es foutu. Faut pas te laisser aller, en fait.
Vous ne faites rien, bah vous coulez à petit feu. Hein. La prison, ça vous tue un petit peu à la fois. Hein. Si on ne fait rien, bah c'est tout, hein, vous coulez. Hein. Moi, j'ai 73 ans, bah heureusement que j'ai toujours tenu ce qu'il fallait. Hein, sinon, je serais plus là. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Donc, il faut, comme il dit, il faut s'occuper, tout ça. Bon, on fait de la musculation, on fait un peu de pétanque, on va au sport. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on espère, on espère toujours un petit peu plus. Mais enfin, bon, c'est déjà pas mal, on s'occupe un peu, quoi.
Alors par exemple, quand je suis arrivée en maison d'arrêt, donc au début j'étais un peu perdue, je savais pas, mais après je voulais absolument remplir mes journées, donc je m'inscrivais à tout, à l'école, j'étais en formation, donc j'avais un super planning, mais au bout d'un moment ce planning, et ben en fait comme ça se répétait tout le temps la même chose, ça m'a fait la déprime, mais ça m'a fait le contraire, la déprime. Donc justement, j'ai cherché à faire des activités différentes. Après, j'ai eu un travail aussi en détention. J'étais bibliothécaire, donc j'avais beaucoup de chance. Et en plus, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis propose beaucoup d'activités. On a vraiment, au niveau culturel, tout ça, c'est vraiment au top. Donc quand je suis arrivée ici en CD de ma pomme, alors que moi, je me suis dit, centre de détention, porte ouverte, il va y avoir plus d'activités, on va être plus appelé à faire des choses intéressantes. Je suis un peu perdue ici. Donc, il y a des bonnes activités, mais c'est vrai que c'est pas aussi nombreuses que dans la maison d'arrêt où j'étais avant. Et au niveau travail, on a quasiment rien, quoi. Pour les femmes, il y a juste les ateliers et donner le repas aux filles. Alors qu'on est presque 100 femmes. Donc c'est vrai qu'il faut remplir ses journées, mais des fois c'est compliqué. Ouais. Donc même pour les études supérieures, c'est compliqué. Si vous avez un bas niveau, ça va, vous pouvez aller au scolaire, mais dès que vous avez un niveau bac, c'est terminé, l'école pour vous, vous n'avez pas de place. Donc c'est très compliqué, donc il faut par nous-mêmes, voilà, comme il dit, par nous-mêmes chercher comment s'occuper, comment se nourrir intellectuellement pour pas mourir. Ouais.
Personnellement, il y a eu deux mondes, deux ambiances. C'est les maisons d'arrêt, pour le coup. Moi, dans les premiers jours où j'étais incarcérée, j'ai vraiment vrillé totalement. J'ai passé un an de ma vie où je ne m'en souviens pas, tellement je prenais des cachets, tellement j'étais ailleurs, j'étais quelqu'un d'autre, pour oublier l'incarcération. Et ce qui m'a sauvée, c'est vraiment parce que je suis sortie en liberté provisoire et qu'après j'ai été jugée et j'étais réincarcérée. Mais c'est vrai que, pour le coup, les premiers temps, où il n'y a pas d'activité, où on ne sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on ne nous explique pas tellement vraiment comment s'inscrire, comment participer à ça, à ça. Et moi, pour le coup, c'est les autres détenus qui m'avaient beaucoup orientée pour savoir le fonctionnement de la détention, tout simplement. Mais malgré tout, il y a le côté, cet aspect psychologique d'encaisser l'enfermement, d'encaisser la séparation, d'encaisser aussi la culpabilité qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, je m'étais totalement laissée aller. Et après, il y a eu donc cette réincarcération où ça a été vraiment différent parce que je connaissais le fonctionnement. De toute façon, je savais que j'allais être réincarcérée. Donc, je m'étais préparée psychologiquement. Et c'est vrai que... On s'inscrit, on fait les activités pour notre quotidien. En fait, il faut avoir une sorte de programme et s'y tenir, parce que sinon, dans notre tête, on peut vriller facilement, on peut recourir aux médicaments, recourir à se laisser aller, à la solitude, à ne pas parler avec les autres. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai choisi finalement de faire autre chose de ma vie et de me dire, de toute façon, je suis là pour un temps donné. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, comme Aurélie a dit, moi, j'ai rebondi sur les études. Je suis en licence actuellement. C'est pas facile parce qu'en détention, comme elle disait, on n'a pas accès à beaucoup de choses au-delà du bac. Et donc, c'est vraiment que du travail par soi-même. Mais en même temps, j'ai le temps de le faire. Donc, c'est un privilège aussi de pouvoir le faire parce que normalement, par exemple, en centre de détention, celui-ci, en tout cas, je ne sais pas les autres, ils arrêtent tout ce qui est au-dessus du bac. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus en charge les licences, les masters, ce genre de choses. Donc j'ai eu de la chance parce que je suis passée à travers cette loi, puisque en maison d'arrêt j'ai commencé et donc j'ai pu continuer en CD. Mais par exemple, à l'heure actuelle, si quelqu'un est incarcéré et qu'il veut faire une licence au centre de détention, ce n'est pas possible. Et donc c'est compliqué parce que pour justement les remises de peine supplémentaires, on demande le travail, les études, sauf qu'au-delà du bac, on ne peut rien faire. Donc on est un peu perdant de ce côté-là. Et après, oui, on s'accroche au travail, aux activités disponibles en détention. C'est vrai qu'en centre de détention, il y a quand même beaucoup moins d'activités qu'en maison d'arrêt, enfin, de ce que j'ai pu connaître en tout cas. Et ça, c'est un petit peu dommage pour occuper ces journées. Mais la révolution, c'est vraiment les portes ouvertes et de pouvoir aller parler avec les autres et de plus être vraiment seul en cellule, à réfléchir, à ruminer tout seul dans son coin.
La journée, je regarde un peu la télé. Pour éviter que je sois toute seule, je parlais à deux détenus. Puis j'écoute de la musique. Je me rabâchais, mais j'écoute Michel Sardou. ça me calme, hein. Ça me détend. Mais ça évite de penser des idées noires. Ça me fait rire de voir, puisqu'il raconte des bêtises dans ses chansons. C'est marrant, quoi. Bon, voilà.
Bonjour.
Oh, la classe.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de d'autres aspects de la vie quotidienne, comme les repas, comment se passent les promenades, et puis aussi l'hygiène, les douches, les choses comme ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça en détention?
Question d'hygiène, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre votre douche quand vous voulez. Soit qui ne veut pas se laver, bon, c'est son problème. Mais normalement, les douches, vous pouvez prendre 4 fois une douche par jour, et ça ne dérange personne. Et puis pour les promenades, c'est toujours pareil. Vous promenez tranquille, cool, c'est tout. Hein. Mais pour la bouffe, alors ça, c'est autre chose. Hein. Alors là, non. Moi, j'ai perdu 12 kilos ici. 12 kilos, parce que je ne mange pas. Il n'y a rien à manger. Je ne mange rien. Franchement, c'est dégueulasse. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est dégueulasse. Je ne sais pas, moi, il faut la bouffe. Je ne sais pas.
Pour l'alimentation, on a le droit de cantiner aussi pour se faire soi-même à manger. Je pense que c'est mieux. Parce que ce qu'ils nous donnent, en fait, moi j'ai travaillé en cuisine, tous les aliments qu'ils reçoivent, c'est de la qualité, hein, même si c'est surgelé, c'est de la marque. Après, c'est la façon dont ils préparent. En fait, ils préparent 3 jours à l'avance. C'est le repas que tu vas recevoir ce soir, ça a été préparé 3 jours avant. C'est mis au frigo, c'est réchauffé dans les chariots, et ils te le servent. Non. Si ? Il n'y a que les crudités qui sont faites le jour même, ou les frites. Mais le repas que tu vas recevoir ce soir, il a été préparé.
C'est pour ça que je dis qu'il y a une odeur de rance.
3 jours à l'avance.
Après, pour s'y différencier, par exemple, en maison d'arrêt, c'est des barquettes. Donc, c'est des barquettes surchauffées en plus, parce que c'est vraiment humidité, etc. En CD, oui, c'est des repas, c'est des oxy qui servent, et tout est mis dans des gastros, et on sert. Donc, effectivement, c'est. Je ne sais pas ce qui vaut le mieux entre les maisons d'arrêt et le CD, la manière de cuisiner. Et pour revenir aussi sur les douches, c'est différent aussi parce qu'en maison d'arrêt, moi par exemple, il n'y avait pas la douche en cellule. C'est la douche 3 fois par semaine et tu as 10 minutes pour te laver et après c'est le tour suivant. Les douches sont extrêmement sales, c'est horrible. Il y a des... je ne sais pas... comment décrire ça, mais il n'y a pas de porte, c'est-à-dire que tu vois la personne en face de toi en train de se laver. Et donc, tout le monde est nu. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est aussi différent du CD, où donc déjà, c'est beaucoup plus propre, et on peut y aller à n'importe quel moment de la journée. Donc, on peut se laver tous les jours, contrairement à la maison d'arrêt. Après, il y a certaines maisons d'arrêt modernes où il y a la douche en cellule. Donc, c'est aussi beaucoup mieux, et on peut gérer soi-même. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus le nec plus ultra, hein, ce n'est pas l'hôtel, évidemment. Et c'est un aspect très différent d'un CD, d'une maison d'arrêt à l'autre. Les douches, c'est vraiment... moi, j'ai connu la douche 3 fois par semaine. C'est difficile. Après, on se lave en cellule, évidemment, mais c'est différent. Et donc, voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Faut pas dire que, que la douche, c'est pas en libre accès pour tout le monde, malheureusement.
Il faut bien différencier une promenade de maison d'arrêt et une promenade de CD aussi. Parce que la promenade ici, c'est maximum, il y a... En été, alors qu'il fait beau, il y a quoi, une 20aine de personnes. En maison d'arrêt, une 60aine. Et c'est pas pareil. Moi, ma première promenade en maison d'arrêt, j'étais à Meaux. J'ai vu un mec presque se faire tuer en promenade. Et les surveillants n'ont pas le droit d'intervenir. Donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 secondes. Mais je l'ai vu se faire piétiner. Et je pensais qu'il était mort. Et... moi, je tournais et quand j'ai vu ça, je me suis arrêté. C'est un détenu qui m'a dit non, continue à tourner. Et c'est des détenus qui l'ont pris, qui l'ont traîné, qui l'ont ramené devant la porte de la promenade, là où les surveillants l'ont récupéré. Donc, il faut bien différencier une promenade de maison d'arrêt, où là, c'est vraiment le feu, et une promenade de CD. Mais promenade, c'est important parce que ça te permet de prendre l'air. Il ne faut pas rester enfermé dans sa cellule, tout ça, c'est pas bon. Il faut toujours sortir, il faut prendre l'air, il faut s'aérer l'esprit. Même si c'est compliqué. En fait, je dirais que la prison, c'est comme dehors. Il ne faut pas se laisser faire, en fait. C'est un dicton de la vie. Si tu te laisses marcher sur les pieds en prison, tu es mort. Si tu te laisses marcher sur les pieds dehors, c'est pareil. Donc il faut se faire respecter, pas forcément par la violence, mais il ne faut pas... faut pas tendre l'autre joue, en fait, c'est tout.
Effectivement, en prison, on apprend à être un peu plus fort mentalement parce qu'on n'a pas le choix, on apprend à prendre ses distances. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent, en fait, de nos faiblesses, qui vont appuyer dessus. Donc on apprend à ne pas se laisser faire parce que sinon c'est vrai qu'on se fait manger. C'est un peu... heureusement on rencontre des belles personnes parce que sinon la détention sera encore plus compliquée. Mais il y a des personnes qui ont vraiment un fond mauvais et donc si elles peuvent te tirer vers le bas, elles vont le faire. Et il faut apprendre à différencier ces personnes-là qui sont là, on va dire, pour nous aider, pour nous dire... pour nous relever tout simplement, et celles qui vont faire en sorte qu'on sorte le plus tard possible de détention. Parce que nos comportements ont une influence évidemment sur nos aménagements ou sur notre sortie. Et c'est vrai que si on se comporte de manière brutale, violente, etc., on sortira beaucoup moins vite. Mais en même temps, il y a des moments où on ne peut pas se laisser faire. Donc effectivement, il y a la parole, c'est très bien. Il vaut mieux rester pacifique. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas le choix de se forger un caractère. Moi, je n'avais pas du tout de caractère quand je suis rentrée en détention. En plus, chez les mineurs, c'est encore différent. Et on apprend malheureusement à grandir encore plus vite. Et aussi, on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas, des choses inimaginables, on se dit ça peut pas exister, et malheureusement si ça existe, mais c'est vrai qu'on apprend finalement à devenir plus adulte, à prendre sur soi aussi, et aussi à se tempérer, parce que justement, comme en détention tout est décuplé, les émotions, on doit apprendre à oui, si quelqu'un te fait ça, tu peux pas exploser en fait, alors qu'en détention t'as beaucoup envie de de critiquer les gens ou de les secouer, mais on n'a pas le choix de tempérer parce que en fait nos émotions sont tellement mises à rude épreuve que par exemple quelqu'un qui va être triste encore plus, c'est vraiment, on sera au bord de la dépression, alors que dehors c'est pas quelque chose qui va faire aussi mal, mais en détention c'est vraiment comme on est enfermé, je pense que tout est différent et même les liens qu'on tisse, parce qu'évidemment on tisse des liens très bien aussi, c'est plus fort aussi, l'amitié peut être plus forte, mais il faut apprendre vraiment à prendre sur soi en prison et à se forger un mental pour parvenir à la fin et sortir de là encore plus fort finalement, et évidemment travailler sur soi.
Je dirais presque que moi j'ai appris en 6 ans de détention, je touche ma tête, j'ai jamais eu de gros problème avec personne. Il faut jamais répéter ce qu'on te dit, tu n'as rien vu, ne jamais demander de service, comme ça tu dois rien à personne. Et je trouve que ça c'est les 3 clés que je touche ma tête depuis 6 ans, je m'en sors très bien. On vient me parler, on m'explique une chose sur un tel, je ne répéterai jamais, et même si on me prend en partie, ah t'étais là, je n'ai rien vu, j'ai rien entendu, et je prends le parti de personne. Voilà, parce que quand vous prenez le parti d'une personne, vous mettez la moitié de l'autre partie à dos. Donc voilà, la clé de la prison, de la survie de la prison.
Oui, en fait, en prison pour survivre, c'est un peu comme les émojis avec les petits singes. C'est « j'ai rien vu, rien entendu et je parle pas ». Et comme ça, on passe une détention sereine et on n'est pas mêlé aux embrouilles qui peut en plus part de rien, mais peut prendre des ampleurs extraordinaires.
Alors Jean va nous faire une chronique, lui, pareil sur le quotidien de la prison, mais sur sa première promenade, voir comment ça s'est passé, voir un peu le choc carcéral qu'il a pu subir. Et on se retrouve après cette chronique.
Oui, alors voilà, Jean vous parle. Ma première promenade en prison, ça s'est passé à Marseille au Baumettes. Je descends avec mon paquet de palmales, mon paquet de feuilles et mon briquet en promenade. Nous sommes à peu près une vingtaine d'hommes. Et tranquillement, une fois un peu installé en promenade, je sors mon paquet de tabac et je vois arriver une nuée de petits jeunes qui, sans vergogne, m'arrachent mon paquet de tabac, mon paquet de feuilles et mon briquet. Donc, la promenade, pendant l'heure et demie, je l'ai passé à marcher sans pouvoir fumer une seule cigarette puisque tout m'avait été arraché des mains. Donc, la fois suivante, il fallait prévoir de venir avec 2 roulés dans la poche, 3 allumettes et un petit morceau de grattoir pour ne pas se faire arnaquer en promenade. Alors ça, c'est pour les promenades. Il y a aussi la première douche. Moi, je me souviens de ma première douche. On ne m'avait pas averti, mais bon, on est une quinzaine à se présenter devant les douches et on est enfermé à clé dans ces douches qui est un immense couloir à tout carrelé. Et les premiers se sont précipités. Moi, je suis en attente de mon tour pour aller à la douche. Et bien sûr, il y a des détenus qui ont remarqué à mon poignet quelque chose les intéressait fortement. C'était ma montre, une Omega à 900 euros, qui sont précipités de me plaquer au sol pour me l'arracher, ainsi que ma bague que j'avais au doigt. Donc je suis ressorti, j'ai fait appel au surveillant, lui disant, ben voilà, je vous dis, un tel et un tel m'ont volé ça. Et le surveillant m'a dit, ben rentre en cellule, t'inquiète pas, je vais te ramener ta montre et ta bague. Et je suis 14 ans après, j'attends toujours après ces éléments qui me sont été enlevés. Il y a une autre petite anecdote que vous savez certainement pas, et même beaucoup de détenus se demandent pourquoi, c'est en promenade. Dans toutes les prisons, les courtes promenades sont parcourues par les détenus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est systématique. La seule et unique raison est de vouloir pour cela remonter le temps. Voilà, j'ai terminé ma petite élocution.
Bah, merci Jean pour ce témoignage. Puis on a pu voir comme ça que la prison, bah, c'était pas si facile que ça. Donc ça va peut-être enlever certaines idées à certaines personnes. On va enchaîner avec notre deuxième chronique. C'est une séance de sport effectuée par moi-même, accompagnée de Jeanne, une intervenante. Voilà, c'est quelques exercices que vous pouvez effectuer soit chez vous, soit en cellule pour garder la forme. C'est rapide et c'est simple, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon, alors on va faire une petite séance de sport, tranquille, avec trois exercices qu'on peut faire tous les jours pour garder la forme, c'est super simple. Le premier exercice est simple, c'est des pompes. Alors... je vais déjà expliquer qu'il y a trois sortes de pompes différentes selon la position des bras. Plus on écarte les bras, plus ça travaille les épaules. Bras au niveau des épaules, ça fait travailler les triceps. Et bras serrés, c'est pour travailler les pecs. Donc on va travailler avec les bras au niveau des épaules. Est-ce que Jeanne, tu es prête?
On va faire juste 10.
Ah oui, oui.
Allez, c'est parti. Juste 10. Mais comme ça, les bras au niveau des épaules. Si tu n'y arrives pas, tu peux te mettre sur les genoux.
Ouais,
merci. Et on en fait 10. 1, 2, 3.
C'est bien, Jean. Ça va?
Oui, ça va.
Le deuxième exercice, c'est du gainage. C'est plus tranquille. C'est pour travailler la ceinture abdominale, le dos, tout ça. Alors, on se met en position pompe et on reste immobile pendant 30 secondes. Et il faut qu'on reste le dos droit.
Okay.
C'est parti. Tu restes comme ça, le dos droit, pendant 30 secondes. Si tu vois que t'as mal, tu peux bouger un peu les bras, ou bouger un peu les épaules. On va dire que ça fait 30 secondes. Faut pas que ça soit trop long pour le téléspectateur. Et le dernier moment, c'est pour travailler les abdos. Alors c'est pareil. On va se mettre en position gainage. Mais sauf qu'on va ramener les genoux en avant. On va faire des mouvements avec les genoux en avant. Et sur le côté. On va faire 10 avec les genoux en avant et 10 avec les genoux sur le côté. C'est parti. Alors tu te mets comme ça, et tu ramènes les genoux comme ça. Et t'en fais 10. Comme ça. Et tu peux accélérer. Une fois que t'en as fait 10 devant,
okay.
Tu ramènes tes genoux sur le côté. C'est-à-dire que ton genou droit, il va essayer d'aller au niveau de ton bras gauche. Ça. Et voilà.
Bravo.
Donc vous faites ces trois exercices tous les jours.
Ouais.
Ça va vous maintenir en forme. Moi je vais me coucher.
Bah, je vais sentir tout le reste de la journée, mais ça va. C'est chouette, je le referai chez moi.
Donc maintenant, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, et si vous avez envie de lire, on va passer une petite chronique littéraire avec nos deux spécialistes, Marie et Aurélie, qui vont vous aiguiller vers des choix de livres, en espérant que ça va vous intéresser. À vous les filles.
Coucou les auditos, petit moment culture avec Marie
et Aurélie.
Nous allons vous faire découvrir des nouvelles lectures qui nous ont plu.
Alors, pour commencer, je tenais à vous parler d'un genre nouveau de roman de plus en plus populaire. Si vous aimez avoir peur, je veux vous recommander Sleepy Hollow de Simon Rousseau aux éditions Contredire pour un public averti. venez lire ou même relire la célèbre histoire d'Ichabod Crane et le cavalier fantôme, revisité en un registre horrifique. Si vous êtes adepte de ce genre, découvrez Blanche-Neige ou bien même Peau d'âne sous un jour nouveau. Bref, tous vos contes favoris disponibles pour vous faire frissonner.
Moi, je vous conseille un petit livre sur l'alimentation. C'est écrit par Virginie Paré aux éditions Pocket. Ça vous permettra de trouver des astuces pour surmonter le surpoids, les intolérances alimentaires, ainsi que l'inconfort digestif. Elle vous donnera des petites recettes avec les fruits et les légumes de saison, mais vraiment concrètes pour vos repas du matin, le midi et le soir. Et cela, tous vos conseils vont vous permettre aussi de diminuer le sucre, le gluten et le laitage. Et à la fin du livre, vous avez un petit questionnaire qui vous permettra de connaître le degré d'intoxication de votre organisme. Donc, petit livre très simple, vraiment adapté pour tout le monde. Je vous le conseille pour améliorer votre alimentation.
Voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu. C'était Marie
et Aurélie.
Au revoir les auditos.
Au revoir.
Alors, dernière chronique, présentée par Cynthia. Elle va nous faire une chronique, non pas sur Michel Sardou, mais sur Pierre Palmade. D'ailleurs, c'est Michel Sardou, donc t'es fan, Cynthia ?
Oui.
Donc là, t'as changé, c'est Pierre Palmade. Donc, je te laisse effectuer ta chronique, Cynthia.
Pierre Palmade est né en 1968 à Bordeaux. Il a commencé en 1988 à l'âge de 20 ans, dans l'émission de la classe animée par Fabrice, avec Vincent Lagaffe, Muriel Robin, Chevalier Laspalès et Michel Larocque, avec les sketchs des clés, le colonel, le Scrabble, le dîner, le couple homo, le permis de conduire. Et en 1998, il commença le théâtre avec Michel Larocque, avec Il s'aime et Il divorce, qui fut un grand succès. Pierre Palmade a été marié pendant 6 ans à Véronique Sanson. Après, il a divorcé car il a réalisé depuis qu'il était très jeune qu'il était homosexuel et qu'il ne voulait pas se l'avouer à lui-même. Du coup, il s'est mis dans l'alcool et la drogue dure et la drogue de synthèse. Au mois de février 2023, malheureusement, il a fallu un grave accident pour qu'il comprenne ce que la drogue et l'alcool fut sur la santé. En ce moment, il est en cure obligatoire et surveillé à Bordeaux. Et en ce moment, il doit attendre que le procureur lui donne une dot en 2024 pour qu'il passe devant le tribunal. Et j'espère que la justice ne sera pas trop sévère envers lui. Je sais ce qu'il a fait, ce n'est pas bien du tout. Mais il doit le regretter déjà, il en souffre beaucoup. Il doit voir les images de l'accident dans la tête. Imaginez un peu à sa place, moi je me mets à sa place, il doit être très très mal. Pierre Palmade va avoir 56 ans et bientôt 36 ans de carrière de théâtre. Voilà ce que j'ai à retenir sur Pierre Palmade.
Merci pour toutes ces infos Cynthia, c'était très détaillé.
Je vous propose une petite pause musicale avec une très grande chanteuse, Pink, et le titre est « So What ».
start a fight. Na 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 nah. We're all gonna get in a fight. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright, and it's fine. And you're my tool, so, so what? I am a rock star. I got my rock moves, and I don't want you tonight. You weren't there, you never were. You wanted all, but that's not fair. I gave you life, I gave my all. You weren't there, you let me fall. So, so what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun, and now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright, and it's fine. It's fine. I am a tool, so, so what? I am a rock star. I got my rock moves, and I don't want to hurt you tonight. No, 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 I don't want you tonight. You will let me out. I'm gonna show you.
Donc c'est la fin de notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et qu'on a su vous divertir et vous apprendre quelques nouvelles dont vous n'étiez pas au courant. Donc salut à tous et n'hésitez pas à écouter PFM Radio.